Gustave Lenôtre, Monsieur Bourret, nouveau riche. On raconte que, dans le cours du XVIIIe siècle, Monsieur le maréchal de Richelieu, gentilhomme accompli et parfait modèle des manières élégantes, visitait son petit-fils, alors duc de Fronsac, pensionnaire au collège Louis-le-Grand. Après s'être informé des travaux et des succès du jeune homme, il tira de sa poche une bourse de 100 louis, somme dont il gratifiait mensuellement l'écolier. « Oh, je vous rends grâce, monsieur, dit celui-ci. Je n'ai pas besoin d'argent, ayant économisé ces temps derniers sur la pension que vous voulez bien me servir. » « Économiser ? » riposta Richelieu en menaçant de dégoût. « Économiser ? Mais quel est ce méchant mot ? Un garçon de votre rang doit-il songer à de telles vilainies ? » Et comme on entendait dans la rue un pauvre joueur de vielle qui implorait la charité, le maréchal ouvrit la croisée. « Eh, psit, homme » cria-t-il. Et lançant la bourse par la fenêtre au pied du mendiant ébahi. « Voilà ce que monsieur le duc de Froissart te donne pour se former aux bonnes maçons. » Si l'histoire a recueilli cette anecdote, c'est parce qu'elle caractérise une époque et un monde aboli. Il fut un temps, en effet, où la société française méprisait l'argent avec une ostentation un peu folle, mais non sans grâce, ni même sans une certaine grandeur. Savoir compter était une tare, s'enrichir était une honte. Le bon ton exigeait qu'on se ruinât allègrement. Si l'aristocratie de cour s'y évertuait avec une sorte d'acharnement, la classe bourgeoise, parcimonieuse par tradition, séculaire, professait elle aussi le même dédain, superbe pour les financiers, mot aujourd'hui prestigieux, mais qui jadis était entaché d'une sorte d'opprobre. Quant au menu peuple, il détestait d'instinct les parvenus, traitants, fermiers généraux, fournisseurs et commis des subsistances dont la scandaleuse opulence était fondée sur les embarras de la France. Être millionnaire était presque un déshonneur. C'était un ridicule. Il n'y avait pas de raillerie, de brocard, de persiflage, voire d'invective, qu'on ne s'amusât à décocher en pleine figure aux ennemis, pour peu qu'on leur fît l'honneur de pénétrer en leur fastueux palais ou de s'asseoir à leur table. Comme c'est beau, comme c'est bien! « Oh là là !» s'exclamait une danseuse de l'opéra émerveillée en visitant l'Élysée nouvellement aménagée par le trésorier Beaujon. « Oui !» observa un grand seigneur qui accompagnait la dame. « On ne saurait vraiment où cracher s'il n'y avait pas la figure du maître de la maison. Oh, voilà un délicieux potage !» disait en ce pour-les-champs un gourmet dînant chez un richissime administrateur des hospices. « Oh, je crois bien !» remarqua haute voix un convive. « Il est tiré de la marmite des 20 000 malades !» Les amphitryons empochaient moqueries et marchaient de l'air le plus satisfait du monde. Ne convenait-il pas qu'ils se fissent pardonner leur opulence par ces commensaux infatués de leur gloriole de leur glorieuse pénurie. Et c'était merveille de voir l'humilité de ces gentils, richissimes banquiers flattés d'être malmenés par les gens de qualité qui condescendaient à manger à leur dîner, à passer puiser dans leur caisse et à les traiter familièrement de filous et de sangsues. Il faut dire que nul homme bien né ne consentant à déroger en trafiquant des deniers publics, la finance se composait presque exclusivement de gens d'origine très modeste, la tradition exigeant même que tous fussent d'anciens valets ayant reçu des coups de bâton et mérité les galères. Tradition légendaire, est-il besoin de le faire remarquer? Beaucoup de ces militaires traitants étaient de fort honnêtes banquiers, qu'une spéculation trop heureuse ou un coup de bourse trop profitable avait transformé en Crésus. Et pour s'excuser de ces faveurs de la fortune, en un temps où le respect et la considération n'allaient qu'aux nobles noms et aux grands services rendus au pays, ils faisaient de leur mieux pour se ruiner et luttaient avec une émulation presque touchante à qui mettrait à sec le pactole que les submergeait. Et il semble que la plupart de ces nouveaux riches s'appliquassent à mourir insolvables et à se réhabiliter ainsi aux yeux de leurs contemporains. Et c'est ce qui explique l'averse de millions qu'ils déversaient sur leur entourage, de commensaux insolents et de parasites gouailleurs, et aussi les folies et dépenses de luxe extravagants dont ils se faisaient un point d'honneur. Beaujon, déjà nommé, qui perclus, contrefait, presque aveugle, réduit à ne boire que de l'eau et à ne manger que des herbes bouillies, tenait table ouverte et laissait jour et nuit ses invités maîtres de son palais, dans une corbeille tapissée de peau de cygne suspendue par des guirlandes de fleurs à quatre palmiers ombrageant son alcôve. Il possédait presque tous les terrains du faubourg Saint-Honoré, où, après avoir acquis le plus bel hôtel de Paris, une ferme des mille et une nuits, un château dont les pièces étaient machinées avec une extravagance d'opéra, même une chapelle monumentale destinée à recevoir son tombeau, une heureuse idée d'élever un hospice, la seule de ses fondations qui assure à son nom la pérennité, l'hôpital Bourgeon. Un dîner chez le financier Lamoisson, les convives voient apporter 50 soupes dans des vases d'argent. Succès de 3 services, chacun de 140 plats, tous dressés en vaisselle plate. Il y a sur la table et sur les buffets 48 douzaines d'assiettes d'or et défilent des marcassins rôtis, les turbots aux coulites de homard, les ortolans à la financière, les jambons trois fois cuits au vin de Madère, les pyramides de truffes élevées aux vapeurs de champagne, et on boit à la santé du dauphin, et pour ce faire on remplit, puis on casse, on brise 2000 coupes de cristal le plus pur, et quand les trois services sont en défilé, on passe pour le quatrième dans un autre appartement. C'est le dessert. Alors la table est couverte de grands arbres aux branches desquelles pendent des fruits de tous les pays et de toutes les saisons. Il n'y a qu'à cueillir, tandis que des rossignols vivants, nichés sur les feuilles, roucoulent délicieusement. Chez Bonville, autre Plutus, tous les appartements sont chauffés par des tuyaux de chaleur invisibles, si bien que, au cœur de l'hiver, on peut se croire toutes portes ouvertes en plein été. Agrément devenu banal, mais qui constituait alors une nouveauté merveilleuse. Les boiseries, machinées de telle sorte qu'il en sort des concerts de grand orchestre, et le maître du lieu a pour berceau un bureau, une grande table, toute en porcelaine, ouvragée, et toute tendue tiède par des conduits dissimulés. À Chevilly, chez Toana, il y a une laiterie construite en coquillages, isolée sur un grand parterre de violettes et de muguets. Les plafonds sont d'un marbre blanc et les sièges recouverts d'œufs d'argent. Le banquier Lahaye, rue Plumet, a fait construire sa maison, une vieille masure qui semble prête à s'écrouler. Une porte d'entrée vermoulue qu'on a étayée d'un côté. Et cette porte franchie, on est dans une cour d'une pauvreté à serrer le cœur. On entre par un perron déjeté, et c'est l'antichambre pavée d'une mosaïque italienne représentant l'amour jonglant avec des cœurs. Puis vient la salle à manger, simulant le bouquet de marronniers, et au pied de chacun de troncs d'arbres, un buisson de roses, un grand rocher d'où tombe une cascade, soutient la tribune des musiciens, et quand les convives prennent place, à table, de tous les arbres sortent les satyres et les nymphes, portant des girandoles d'or. La chambre à coucher est tendue d'une étoffe de soie glacée d'argent, sur laquelle est drapée une mousseline des Indes, bordée d'un inimitable point d'Angleterre. Les secrétaires, les commodes, les chiffonniers, comme la cheminée, sont en porcelaine de Sèvres. Et le maître de cette féerie a commis la folie de faire peindre des volets et ses persiennes par le maître Villain, afin qu'aucune main, qui ne fût celle d'un grand artiste, ne contribuât à orner sa demeure. Ce préambule fera paraître moins invraisemblable l'aventure du pauvre Bourret, lui aussi fermier général, trésorier de France, secrétaire du roi du Grand Collège, l'un des plus puissants financiers du XVIIIe siècle.